Les tsars du ballon rond, le quart d'heure des spécialistes.
Et dans le quart d'heure des spécialistes, dans les tsars du ballon rond, on va accueillir Raffaele Poli, le directeur de l'Observatoire du football du Centre international d'études sportives à Neuchâtel. Voilà, le nom est complet. Juste avant d'accueillir Raffaele Poli, qui nous entend, qui nous écoute, on va le présenter avec notre humoriste, notre trublion traditionnel, Jérôme Moutet, pour le portrait de Raffaele Poli.
Raffaele Poli, vous êtes né le 29 septembre 1989 et vous êtes un joueur de football italien. Ah non, ça c'est Andrea Poli. Raffaele Poli, vous êtes donc né le 17 mai 45, mort le 6 décembre 2008. Ah non, ça c'est Albert Poli, un ancien joueur de foot italien. Bon, ok, cette fois c'est la bonne. Raffaele Poli, vous êtes né le 26 mai 1989 et vous êtes défense. Ah ben non, ça c'est Fabrizio Poli, mais c'est pas vrai. Alors, Raffaele Poli, vous êtes Poli, et c'est déjà pas mal. Vous n'êtes ni joueur, ni entraîneur, ni dirigeant de foot, ce qui est une très bonne chose. Par contre, Raffaele, vous êtes docteur. Mais attention, pas docteur dans les hôpitaux de la région qui se plantent une fois sur deux lors des opérations. Non. Vous, vous êtes docteur en sciences humaines de l'université de Neuchâtel et de Franche-Comté. Vous êtes né en 1977, année extraordinaire, que dis-je, année mythique, exceptionnelle, merveilleuse, car la même année est né celui qui vous parle. Vous êtes né au Tessin, vous habitez Neuchâtel, et au niveau football, vous avez notamment joué au FC Serrières. Bref, pas de quoi casser trois pattes à un canard. Mais vous êtes surtout collaborateur scientifique au Centre international d'études sportives, le CIES, depuis 2002. Et vous êtes même à la tête de l'Observatoire CIES Sport Football, un groupe de recherche universitaire international spécialisé dans l'analyse statistique du sport. Alors qu'est-ce que c'est que ça exactement? Est-ce encore un truc pour se retrouver en famille tout en étant payé et en buvant des verres? Non. Fondé en 2005, l'Observatoire du football CIES jouit d'une réputation mondiale en tant que principal groupe de recherche pour la revue et l'analyse du marché du travail des footballeurs professionnels. Alors là, s'il y a des footballeurs qui nous écoutent, il est bien clair qu'ils n'auront rien compris, car on ne va pas se cacher qu'ils ne brillent pas par leur esprit de déduction. Mais le travail de haut niveau de l'Observatoire CIES Sport Football vous a conduit à conseiller régulièrement les instances dirigeantes du foot et des sports olympiques sur diverses questions réglementaires. Alors, Raffaele, quand on voit le bordel à la FIFA depuis quelques années, on vous dit bravo et félicitations. Vous êtes également chargé de cours à l'Institut de géographie de l'Université de Neuchâtel. Alors ça, c'est pratique pour, par exemple, expliquer aux plus jeunes où se trouvent sur la carte certains pays faisant partie de la FIFA, comme l'Estonie, le Niger, le Tadjikistan, le Malawi, le Lesotho. Alors ça, je ne savais même pas que ça existait, hein, le risotto, oui, mais pas le Lesotho. L'Aruba ou le Guam, non, ça, ce ne sont pas deux noms d'acteurs porno, mais des pays appartenant à la FIFA, tout comme Montserrat et Aguila. Comme quoi, il y a quand même du monde derrière la Suisse, et ça rassure. Alors, Raffaele Poli, on se souviendra de vous comme un homme trouvant tout à fait normal que Neymar soit transféré au PSG pour 222 millions de francs, et c'est votre avis. Mais on se souviendra surtout de vous comme quelqu'un d'extrêmement brillant dans ce domaine, de très sympathique et de quelqu'un capable d'expliquer bon nombre de choses inexplicables dans le monde du foot. Alors pour tout cela, Raffaele, on vous dit bravo et merci.
Et on l'accueille, Raffaele Poli, bonsoir.
Bonsoir.
Est-ce que Raffaele, vous êtes effectivement celui qui est capable d'expliquer des choses inexplicables dans le football, comme nous l'a dit Jérôme Moutet?
Bon, je pense qu'il y a de l'inexplicable et inexplicable qui doit rester inexplicable, parce qu'il n'y a pas tout qui est logique dans le foot non plus, mais ce qu'on peut expliquer, on va essayer de le faire quand même.
Et c'est ça qui fait la beauté du football aussi, c'est qu'il y a des choses inexplicables. Est-ce qu'il est explicable ce dernier carré, Raffaele Poli, France-Belgique, Croatie-Angleterre? On n'avait peut-être pas forcément parié sur ces quatre-là pour se retrouver en demi-finale en début du mondial. Peut-être une considération qui n'a rien de statistique, mais est-ce que c'est un beau carré de finaliste selon vous?
Oui, moi, je trouve que c'est toutes des très bonnes équipes, assez jeunes, assez joueuses, donc du point de vue football, en bon carré. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas d'équipe extra-européenne, c'est que des équipes européennes. Et sur un sport universel comme le football, je trouve que c'est un peu dommage, mais ma foi, elles ont quand même été méritantes.
Et est-ce que c'est une surprise, ça, dans l'étude statistique, justement, de ne pas voir d'équipe sud-américaine, par exemple, ou extra-européenne en demi-finale de la compétition?
Oui, vous l'avez dit, c'est les Sud-Américains. D'habitude, la dernière fois, il y avait l'Argentine quand même en finale, le Brésil en demi-finale. Le Brésil a gagné quand même 5 Coupes du Monde, l'Argentine 2. L'Uruguay n'était pas loin cette année non plus, mais ils ont déjà gagné, sont arrivés en demi-finale. C'est vrai, ça n'a jamais réussi aux Africains notamment, mais on pense toujours qu'un jour ou l'autre, ils vont le faire. Puis cette fois, ils ne sont même pas qualifiés pour le huitième de finale. Donc, de ce point de vue-là, c'est vrai que c'est l'Europe la grande gagnante. Et puis, ce n'est pas totalement surprenant, mais c'est quand même, disons, un peu préoccupant. Est-ce que c'est parce que cette Europe, cette vieille Europe, c'est peut-être son seul domaine hégémonique aujourd'hui dans le monde, ce serait peut-être le football. Mais c'est une question, évidemment, dans 4 ans, peut-être que ce sera différent.
Alors, j'ai retrouvé quelques statistiques. Effectivement, il y a une triple absence qui est inédite. C'est celle de l'absence du Brésil, de l'Argentine et de l'Allemagne dans le dernier carré. Au moins une de ces équipes était toujours là depuis 1930. On a l'Europe qui détient donc le quatuor. C'est seulement la 5e fois que ça arrive. C'est la 4e de l'après-guerre. Il y avait eu en 34, en 66, en 82 et en 2006. Et puis, on a 100% de renouvellement de demi-finalistes par rapport à il y a 4 ans. Est-ce qu'il faut en déduire, ou alors c'est trop hâtif de dire ça, Raphaël Epoli, que le football, ces 4 dernières années, a finalement beaucoup changé, ou pas ?
Mais en tout cas, ce qu'on remarque, c'est que les équipes aussi qui sont arrivées là, c'est des équipes plutôt jeunes aussi, et celles qui finalement ont fait confiance à des joueurs plus expérimentés, qui étaient peut-être déjà champions du monde, comme l'Espagne ou notamment l'Allemagne, se sont un peu cassés la figure. Donc, est-ce que ça voudrait dire que dans un jeu de plus en plus physique, où les sciences envahissent le terrain et forment peut-être de nouvelles générations de joueurs encore plus préparés de tout point de vue dès le plus jeune âge, est-ce que ce prix de l'expérience est moins important que dans le passé, lorsque, notamment à certains postes défensifs, il fallait absolument avoir des vieux roublards, on va dire, qui pouvaient faire la différence. Moi, je ne serais pas... Le football nous habitue quand même à beaucoup de surprises. Je ne serais pas à donner des réponses certaines, mais on peut se poser en tout cas la question.
Avant le Mondial, vous aviez notamment effectué, alors c'était pas vraiment des pronostics, mais des tendances en fonction des équipes. Finalement, est-ce qu'on arrive à évaluer quel champ statistique on avait de retrouver ces 4-là en demi-finale ? Et est-ce que c'est une Coupe du Monde réellement surprenante ? On entend dire, il y a eu plein de surprises dans ce Mondial. Est-ce qu'elle est plus surprenante qu'une autre Coupe du Monde par le passé ?
Moi, j'attendrai la fin pour le dire, parce que c'est vrai que s'il y a la Croatie ou la Belgique qui gagnent, ils n'ont jamais gagné, donc ce sera quand même très surprenant. Si c'est la France, un peu moins. Elle était d'ailleurs dans le trio, selon nos pronostics, qui avait le plus de chances de gagner avec le Brésil et l'Espagne. Et l'Angleterre aussi, c'est finalement une équipe qui monte, qui progresse, et qui a quand même des joueurs qui jouent déjà dans de très grands clubs. La Belgique et la Croatie aussi, mais c'est vrai que l'Angleterre, en plus, a déjà gagné une Coupe du Monde. Donc j'attendrai la finale, déjà les demi-finales, mais c'est vrai qu'une finale Belgique-Croatie ferait, je pense, passer cette Coupe du Monde comme une des plus surprenantes. Une finale France-Angleterre avec une victoire française amènerait peut-être un peu moins de surprises.
Et c'est vrai qu'il n'y a que 8 nations jusqu'à aujourd'hui qui ont gagné la Coupe du Monde, alors qu'on dispute la 21e Coupe du Monde. Et donc, il pourrait y en avoir effectivement une 9e. Vous avez parlé de la France et de l'Angleterre. Justement, il me semble, dites-moi si je me trompe, qu'avant le Mondial, vous aviez défini que c'était les deux effectifs les plus chers. Qu'est-ce que ça signifie, du coup, de les retrouver en demi-finale ?
Bon, ça signifie effectivement qu'ils ont une très grande valeur de transfert. Ces joueurs sont déjà relativement jeunes, mais déjà tous dans des très grands clubs avec beaucoup d'expérience derrière eux. Donc ça se répercute sur le plan financier par rapport à cette question de valeur de transfert. Et puis après, voilà, ça veut dire qu'effectivement, ils sont expérimentés aussi. Après, ce n'était pas un pronostic strictement sportif. De ce point de vue-là, on avait dit que l'Espagne et le Brésil avaient les meilleures chances. Donc évidemment, tous les pronostics sont faits pour être démentis. Et ça a été le cas une fois de plus. Mais du point de vue de la valeur financière des joueurs, c'est vrai que la France et l'Angleterre arrivent en tête aussi parce que, notamment pour les Anglais, ils jouent presque tous dans le championnat anglais, qui est le championnat le plus riche, celui où les joueurs finalement se transfèrent le plus cher.
Alors ces 2-3 dernières années, le prix des transferts a complètement explosé. On est même venu souvent à dire que ça ne voulait plus rien dire, cette valeur des joueurs. Mais quand on voit ça, que les deux équipes les plus chères arrivent en demi-finale, est-ce que finalement le prix mirobolant de ces transferts ne trahit pas quand même au final une réalité sportive ?
Oui, il faut préciser que c'est des valeurs virtuelles, c'est-à-dire on a un algorithme qui peut estimer le juste prix pour des joueurs, mais qui ne va pas forcément être payé, parce que peut-être qu'ils vont rester dans ce club-là, et puis du coup, il n'y aura pas de somme de transfert. Mais je pense que si on avait fait le même calcul sur les sommes peut-être que les clubs actuels de ces joueurs ont dépensé pour les recruter, on n'aurait pas eu un tableau très différent. Et c'est vrai qu'il y a quand même un marché qui flambe avec une forte inflation, mais les gens, surtout les grands clubs, ils ne vont quand même pas jeter l'argent par la fenêtre. Ils font quand même leurs calculs, et déjà sur la valeur sportive du joueur, sur sa valeur de transfert et sur son potentiel à venir. Donc si on prend Neymar, c'est vrai, on l'a dit avant, c'est beaucoup, beaucoup d'argent, mais en même temps, il y a aussi une logique, une certaine rationalité par rapport à ce que c'est le football, à ce que le football génère comme argent et ce que le joueur représente aussi dans ce marché-là.
Je sais que vous faites aussi des statistiques comparatives parfois entre les différents championnats. Là, ce que l'on remarque, c'est que la Première Ligue est le championnat le mieux représenté hein, parmi les quatre équipes en finale. Est-ce qu'il faut en déduire quelque chose, y voir une logique particulière ?
Oui, une concentration des joueurs. Il y a presque 80% des joueurs qui jouent déjà en Europe. Et puis, on voit, c'est surtout l'Angleterre, après l'Espagne. Donc, ces clubs, ces ligues-là, elles s'accaparent les ressources, donc tous les meilleurs talents. Jusqu'à il y a 23 ans, avant l'arrêt Bosman, comme on l'appelle, la Cour de justice européenne, il y avait des quotas pour étrangers. Tout ça est volé en éclats. Et donc, aujourd'hui, il y a une libre circulation des joueurs. Ils vont se concentrer là. Il y a plus d'argent. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y avait que 4 joueurs qui évoluaient dans le championnat suisse. Même tous les Suisses vont à l'étranger.
Mais ce qui est étonnant, c'est que au niveau de la Ligue des Champions, par exemple, l'Europe est dominée par les clubs espagnols, mais individuellement, ce sont les joueurs du championnat anglais qui ressortent.
Oui, dans le sens que l'Espagne aussi, finalement, a des joueurs un peu plus vieillissant, on va dire, ça dépend de l'âge, une valeur de transfert. Par exemple, Ronaldo, on l'estime autour de 100 millions, mais si le même Ronaldo avait 23 ans, il aurait valu sans doute peut-être 300. Donc, il y a aussi la question de l'âge, et puis voilà, il ne faut pas confondre valeur sportive, valeur économique, parce que finalement, sur le marché de transfert, on achète évidemment un joueur pour ce qu'il a fait, mais surtout pour ce qu'il pense pouvoir faire. Plus le joueur est jeune, plus il a un potentiel sur le long terme, plus on va être prêt à mettre beaucoup d'argent.
Justement, Raphaël Epoli, on est en train de parler d'impact financier finalement de cette Coupe du Monde. Est-ce qu'on le voit sur la valeur des joueurs ? Est-ce qu'on voit, selon justement vos estimations, des joueurs qui ont fait une bonne Coupe du Monde, qui ont particulièrement explosé et où ça se verrait sur leur valeur de transfert ? Est-ce qu'on a quelques exemples ?
Oui, je pense qu'il y a des joueurs comme Yerry Mina, défenseur central de la Colombie, qui met 3 buts. Il était remplaçant à Barcelone, il a très peu joué. Nous, on l'estimait autour de 10 millions avant la Coupe du Monde. Aujourd'hui, avec ses nouveaux matchs, ses buts, il serait autour de 12 millions. Ce n'est pas une différence énorme, parce qu'on prend en compte tous les matchs. C'est vrai que la Coupe du Monde amène en vrai plus, mais elle amène en plus, je pense, au niveau de quelque chose qui n'est pas trop captable par des modèles économiques. Aujourd'hui, Barcelone demande 30 millions pour un acquéreur potentiel. Je pense que le juste prix est sans doute en bas de ces 30 millions, mais l'effet Coupe du Monde fait que la rationalité n'est pas complète et puis qu'un club peut offrir Yerry Mina même peut-être un prix exagéré, mais les supporters vont être contents et donc du coup, peu importe, au final, on va quand même le dépenser. Donc il y a effectivement un effet Coupe du Monde, surtout sur des joueurs comme ça qui ne sont pas encore les plus connus.
Si on prend l'exemple d'un Benjamin Pavard que la France découvre au très haut niveau, parce qu'il était apparu quelques fois en équipe de France, mais là il découvre pour la première fois un tournoi international, il est très en vue, très en lumière. Est-ce que lui, typiquement, c'est le genre de joueur aussi qui peut exploser et on le retrouve acteur majeur du marché des transferts à la sortie d'un tournoi ?
Oui, Pavard, on l'estimait en début de saison, donc il y a une année autour de 4 millions d'euros. Aujourd'hui, sa valeur, selon notre algorithme, avec qui ont débuté en équipe de France et ont fait de bonnes performances avec son club Stuttgart aussi, il est autour de 25 millions. Sans doute que
plus 20,
Yerry Mina, plus 20, c'est déjà énorme, fois 5, presque fois 5 sa valeur. En même temps, sans doute que c'est encore plus que 25 millions parce que de nouveau, tout le monde a dans les yeux ce but magnifique. Sans doute, si on peut chanceux, mais il faut la provoquer la chance. Mmh. Et le Bayern aujourd'hui serait prêt de nouveau à mettre 35 millions. Donc c'est pas énormément différent que 25. Bah, en même temps, c'est quand même 10 millions de plus. Et un but à la Coupe du Monde comme ça peut vraiment changer la carrière d'un joueur malgré tout.
Oui, ce qui veut dire que les clubs, après chaque tournoi international, profitent aussi de ce qui vient de se passer pour essayer de gonfler exagérément, entre guillemets, voilà, les valeurs des joueurs aussi. Voilà. Peut-être une dernière considération, Raphaël Poli, globale, sur cette Coupe du Monde. Je ne sais pas si, en termes d'organisation du mondial, de ce mondial russe, votre institut arrive à déceler des tendances, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort justement sur l'organisation du mondial en Russie, la fréquentation, les supporters?
Bon, en tout cas, moi, j'ai pas été sur place, mais je parlais avec plusieurs personnes qui étaient sur place, qui ont dit qu'en fait, l'ambiance était vraiment à la fête, et notamment les policiers, par exemple, étaient très cordiaux avec les étrangers. Il y a eu un accueil, il y a sans doute eu un projet politique derrière, qui était celui de donner une nouvelle image de la Russie, et puis en fait, de ce point de vue-là, avec les succès de l'équipe russe, il y en a des gens qui étaient peut-être un peu trop anti-russes à cause aussi de l'intox qu'il y a contre ce pays des Occidentaux, et puis aujourd'hui, il y a en tout cas le doute qui s'installe, et si les Russes étaient peut-être un peuple sympathique, et c'est déjà ça, je pense, pour Poutine, c'est tout ça de gagner, évidemment.
Juste avant de vous quitter, Raphaël Poli, est-ce qu'il y a des choses qui ont été compilées pendant la Coupe du Monde, des statistiques? Est-ce que vous allez sortir une étude particulière dans peut-être quelques semaines à l'issue de ce mondial, ou alors c'était pas au centre de vos études cette année?
Disons, nous, on travaille plus sur le football des clubs, les transferts entre clubs, etc. On a fait des choses avant la Coupe du Monde. On a publié aussi un livre numérique qui est disponible sur notre site, football-observatory.com. Après, on va plutôt aussi profiter des vacances et un peu de quelques mois, en tout cas quelques semaines sans trop de football. Je pense que malgré tout, on est des passionnés, mais il y a peut-être aussi un peu trop de football toute l'année. Donc l'été, c'est surtout pour peut-être réfléchir au football, mais pas avoir un lien trop immédiat avec l'actualité.
En un mot, l'expérience statistique, vous vous mouillez, votre pronostic pour le futur champion du monde?
Ah, je ne suis pas très bon en pronostic. D'ailleurs, tout ce que j'ai fait avec les amis, je suis loin au classement. Donc, je ne sais pas. Mais j'ai de la sympathie pour la France, parce que j'ai beaucoup d'amis français. J'ai de la sympathie pour la Belgique, parce que j'ai de la famille en Belgique, des collègues belges, et puis vraiment une équipe sympathique aussi. Les Croates sont aussi très sympas, je trouve. Les Anglais, c'est une équipe jeune, et puis on a toujours dit qu'au final, ils ne faisaient rien. Donc, allez, disons l'Angleterre.
Ok, Angleterre alors. Bon, ben, on note. En tout cas, vous l'aviez aussi donné dans notre émission Place Publique comme un des potentiels favoris il y a quelques semaines. Merci beaucoup, Raphaël Poli, d'avoir été avec nous dans les Tsars du Ballon Rond.
Merci à vous.
Merci beaucoup. Très bonne soirée.
Les Tsars du Ballon Rond. Le quart d'heure des spécialistes.